demander au pasteur José des États-Unis de nous faire la prière d'introduction, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, frère. Prions le Seigneur, notre Dieu. Notre Père céleste, notre Dieu qui vit à jamais, notre Dieu qui ne change pas, notre Dieu qui nous aime tant, en Jésus, ton Fils. Nous voici devant ta face en ce moment pour demander ta présence, puisque nous voulons lire et méditer ta parole que tu nous as laissée pour que nous puissions sans cesse t'écouter à travers elle. Nous avons toujours besoin de ta présence, c'est-à-dire besoin de ton Esprit Saint, que lui-même nous illumine, qu'il nous aide à comprendre cette parole. Et notre prière est aussi pour notre frère qui va nous guider, que tu lui donnes toute la sagesse et toute l'intelligence nécessaire pour nous permettre de nous orienter vers là où tu veux que nous atteignions ce soir. Merci, notre Père, pour tout ce que tu vas faire. Remplis-nous tous de ta présence et efface de nous nos péchés, puisque nous sommes humains et nous avons besoin du sang du Seigneur Jésus pour nous purifier en ce moment. À toi la gloire, l'honneur et la puissance dans tous les siècles des siècles. Au nom de Jésus, amen.
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 Merci beaucoup, Pasteur José, pour cette prière. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur de nous exaucer parce que ce qu'on a demandé est conforme à sa volonté. Ce soir, nous sommes dans Genèse chapitre 29. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au 14e A. Et c'est notre sœur Lumbula qui va nous faire la lecture.
Je vais lire dans Louis II. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous ?» Ils répondirent, « Nous sommes des Charans. » Puis, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor ?» Ils répondirent, « Nous les connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, vient avec les troupeaux. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec les troupeaux de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les troupeaux de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et abreuva les troupeaux de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père. qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura, Jacob demeura et moi chez Laban. Parole de l'Éternel.
Merci beaucoup, notre sœur, pour la lecture. Frères et sœurs, la dernière fois que nous avons médité sur Jacob, vous vous souvenez, c'était dans la suite de l'histoire dans laquelle il s'était substitué à son frère Ésaü pour se présenter devant son père et recevoir la bénédiction que son père voulait donner à Ésaü comme étant le fils aîné. Mais avec l'aide de sa mère, ils avaient concocté ces subterfuges qui avaient abouti effectivement à l'obtention de la bénédiction en question, mais aussi les subterfuges qui avaient suscité la colère et l'animosité de Ésaü, son frère. Et finalement, la mère que son jeune frère, son jeune fils Jacob, échappe évidemment à la colère de son frère, et elle avait poussé le mari, donc Isaac, a envoyé Jacob chez Laban, qui était le frère de la mère de Jacob. Et sur la route, le Seigneur s'est manifesté à Jacob dans une vision de l'échelle. Et à cet endroit-là, le Seigneur lui a parlé pour renouveler la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac. Et en ces lieux-là, Jacob va ériger un monument, il va faire des vœux à l'Éternel, il va se consacrer effectivement à Dieu et il va appeler cet endroit-là Bethel. Et le chapitre que nous commençons aujourd'hui entame au fait une longue série d'histoires qui vont nous montrer comment Dieu tient toujours parole. Comment Dieu intervient dans la vie de tous les jours pour préparer le chemin à son peuple, mais aussi pour discipliner son peuple, notamment comme ici le cas de Jacob. C'est ce que nous commençons aujourd'hui. Je pense que si nous faisons bien attention, nous verrons que jusqu'au chapitre 31-32, Jacob va entrer à ce que moi j'appelle l'école du Seigneur, l'école à laquelle le Seigneur va lui apprendre à compter sur lui, sur Dieu, et aussi l'école du Seigneur où il va être comme en formation avec un moniteur du même type d'acabit que lui, Laban, son oncle, qui va le tromper aussi plusieurs fois, qui va l'exploiter au maximum. Et Jacob va apprendre beaucoup, à compter beaucoup plus sur le Seigneur. Et cette école se terminera effectivement avec le changement de nom de Jacob à Israël et avec, évidemment, quelques séquelles dans le corps. On va le voir, mais c'est une longue école et le Seigneur va lui apprendre bien des choses afin qu'il devienne un homme selon le Seigneur. On verra plus tard, lorsque le Seigneur lui changera le nom, ça va être un Jacob totalement différent, un Jacob qui a triomphé des dieux et des hommes et c'est pour cela qu'il sera appelé Israël selon le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, ce que nous commençons aujourd'hui, c'est un début. Nous nous concentrerons sur comment est-ce que le Seigneur intervient dans la vie de tous les jours, dans les circonstances les plus petites, comment il fait pour que juste au moment où Jacob arrive à un endroit, la personne qu'il fallait aussi arrive à cet endroit-là. Tout ça, c'est l'intervention divine, la providence de Dieu, et c'est ce que nous verrons au travers de la vie de cet homme de Dieu. Voilà, frères et sœurs, pour l'introduction. Je n'ai pas l'impression que j'ai de nouvelles personnes ce soir. Juste le numéro de téléphone qui apparaît, je ne me retrouve pas. Papa Céline, vous m'aiderez, en tout cas en cas de besoin. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas de nouvelles personnes pour répéter ce que nous disons souvent pour prendre la parole. Voilà, frères et sœurs, nous pouvons y aller pour partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Je vais commencer avec le verset 1. C'est un verset qui me donne, en fait, le lisant avec d'autres, je me suis dit, on dirait que l'angoisse de départ, lorsque Jacob a quitté ses parents et son frère, il était angoissé, non seulement pour craindre la colère de son frère qui voulait le tuer, mais aussi l'éloignement de son père, de sa mère. Tout cela devait créer dans son cœur une sorte d'émotion, et aussi les Écritures ne nous ont pas dit si il avait déjà voyagé, il s'était déjà séparé de ses parents. Ça a l'air que non, c'était la première fois, le premier voyage. Mais aujourd'hui, avec ce premier verset, lorsqu'on dit « Jacob s'est mis en marche », j'ai l'impression que c'est une nouvelle perspective qui est née suite à sa rencontre avec le Seigneur, suite au temps qu'il venait de passer, dans la vision, le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur lui a parlé. Maintenant, il peut continuer le voyage après avoir fait des vœux à Dieu, recherchant la protection du Seigneur. Maintenant, il peut effectuer le voyage, non pas seulement avec cette angoisse au cœur, mais avec la certitude que maintenant l'Éternel Dieu, le Dieu de mon grand-père, le Dieu de mon père, il est avec moi et c'est lui qui va cheminer avec moi. Pour me dire, il faut que je fasse confiance au Seigneur, que je m'appuie sur le Seigneur, même si je suis seul, éloigné de tous ceux qui m'aiment et qui ont pris soin de moi jusqu'à présent. Le Seigneur a pris la relève et il sera toujours avec moi. Je vais donner la parole. Papa Céleste, est-ce que je peux savoir de qui il s'agit? Il y a un numéro 919.
Oui, c'est Papa José.
Ah! Papa José, vous avez la parole. Excusez-moi.
Oui, merci beaucoup. Merci, frère. Bien-aimé, je suis au verset 2. On nous dit là-bas, dans ma version, un jour. On n'a pas précisé ce jour, même pas un jour après, après qu'il s'est mis en route pour aller chez son oncle, ce n'est pas un jour après, mais c'est un jour. Ceci pour montrer que le trajet était quand même long. Oui. Le trajet depuis la maison de son père, où est resté son frère et sa maman, ainsi que son père, le trajet est long. Alors, comme le modérateur a introduit, ce qui va arriver ici, à cet endroit, est curieux parce que il a vu un puits dans la campagne. Et puis, là, il a trouvé trois troupeaux de moutons et de chèvres en repos. Ils étaient en repos. Et il y avait aussi une grande pierre qui fermait l'ouverture de là où les animaux vivaient de l'eau. Un jour, depuis qu'il a continué la marche après la rencontre avec le Seigneur, et comme l'a souligné le frère, il n'est pas comme il était venu. C'est un homme libéré, un homme qui est sûr de la présence de Dieu. Et c'est bien son Dieu qui le guide. C'est Dieu qui le guide, qui lui donne l'intuition de s'intéresser à, aux choses. Plus précisément, à ce puits, à ce troupeau, à cette pierre et tout ce qui est là. Donc, tout est préparé par le Seigneur. Et lui, il vient, il arrive à ce moment-là. À supposer qu'il arrive la nuit, il n'aurait pu, s'il arrivait la nuit, il n'aurait pu pas distinguer toutes ces choses. Mais il est arrivé le jour où il a vu ceci, où il a vu cela. Donc, Dieu conduit nos pas sans que nous sachions nous-mêmes. Il conduit nos pas sans que nous puissions vraiment nous rendre compte. Alors, il nous faut tout simplement rester attachés à lui et lui va s'occuper de notre trajet, de notre voyage. Donc, nous sommes en voyage comme Jacob, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Ne nous dérangeons pas de ce qui va arriver parce que nous avons quelqu'un de plus fort qui nous aime et qui nous accompagne. Merci.
Merci, Pasteur José. Je nous rappelle, frères et sœurs, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, nous sommes dans Genèse chapitre 29. Nous avons lu les 14 premiers versets. Nous avons deux questions pour nous aider à faire notre méditation. La question numéro un, est-ce que ce texte m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et la question numéro 8, est-ce qu'il y a d'autres textes, d'autres passages qui m'aident à comprendre ce que je lis? Et ce que le pasteur vient de dire, en fait, ça répond, son intervention, selon moi, montre que ça m'apprend que Dieu dirige toutes choses. Il est, il gère les temps, il gère les circonstances aussi. Merci beaucoup, pasteur. Je donne la parole à Papa Céline ou à Maman Christine.
Oui, merci Papa José pour la parole. Moi, j'aimerais m'arrêter aussi au premier verset. Dans ce premier verset, nous voyons Jacob qui s'est remis en marche parce qu'il s'était arrêté. Rappelons-nous que cet homme laisse derrière lui une famille troublée. Il laisse derrière lui beaucoup d'inquiétudes. La mère s'inquiète que ses deux enfants ne s'entretuent et qu'ils perdent les deux. Papa s'inquiète de ce qui s'est passé, mais il ne peut plus rien changer. Le fils aîné est en train de ruminer comment éliminer son jeune homme qui a pris, selon lui, les droits d'aînesse qu'il avait déjà vendus. Bref, une famille vraiment en trouble qu'il laisse derrière lui. Mais ce jeune homme, il va vraiment rencontrer le Seigneur, comme le modérateur nous a parlé dans l'introduction. Ici, dans le premier verset, il se remet en marche. Il part quand même. Et quand il part, c'est avec toute la confiance parce que Dieu l'a visité. Il se remet en marche tout confiant. Je ne sais pas qu'est-ce que nous avons, nous, en tant que fils et filles de Dieu, laissé derrière nous Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans nos familles respectives? Est-ce qu'il y a de l'entente? Est-ce qu'il y a des divisions? Est-ce qu'il y a des problèmes de toutes sortes? Voilà, faisons comme Jacob, remettons-nous vraiment au Seigneur, parce que non seulement il est capable de s'occuper de là où nous allons, mais il est aussi capable de réparer ce qu'il y a derrière nous.
Mm-hmm.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Céleste. C'est tellement, tellement sûr. Il est possible qu'en ces moments, les personnes qui écoutent ont derrière eux une famille troublée. Ou si ce n'est pas troublé, comme dans le cas de Jacob, il y a certainement quelque chose d'inquiétant. Et Jacob nous donne ici aussi un bel exemple, comme on vient de l'entendre. Malgré tout ce qui peut être derrière nous, nous avons une marche à poursuivre. Lève-toi et continue la marche, comptant sur le Seigneur. Regardons ce qui, avant de se mettre en marche, le Seigneur est venu à sa rencontre. Il n'a pas laissé passer cette occasion-là. Il a écouté le Seigneur. Il s'est engagé envers le Seigneur. Il a fait des vœux à l'Éternel. C'est un homme dédié, dévoué maintenant. Il peut compter sur le secours de Dieu et il peut alors, avec joie, avec force, continuer la marche. Il peut se faire en ces moments, vous qui écoutez, moi qui vous parle, il peut y avoir derrière nous des choses peut-être difficiles à porter, des choses qui nous pèsent encore, mais si nous pouvons aller vers le Seigneur, lui déposer cela à ses pieds, comme lui-même nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et cela nous permettra de continuer la marche, de faire un grand pas avec lui en allant vers l'avant. Merci beaucoup, Papa Célé. Pasteur Richard, vous avez la parole.
Merci, Pasteur José du Canada, pour la parole. J'étais attiré par les sens d'observation que Jacob avait. Nous savons que le terrain où il traversait, du moins disant, durant sa route, c'était un terrain désertique. Donc, certainement, il a vu plusieurs choses en chemin, mais on n'en parle pas. Mais ici, on pointe du doigt le puits. Et puis le troupeau. Donc, il est probable qu'il était attiré que non, maintenant je peux m'abreuver, trouver de l'eau pour continuer. Et pourtant, du moins dans le chemin que le Seigneur avait déjà tracé devant lui, le Seigneur avait mis des points de référence. Donc, il y a des points donc dans notre marche, dans ma marche avec le Seigneur, je dois chercher d'abord avoir un sens d'observation et puis chercher les points de repère. Et ce sont ces points de repère qui pourront du moins m'aider parce que s'il a ignoré le puits, certainement il n'allait pas faire cette rencontre qu'il venait de faire. Donc, dans le discernement, dans ma marche, je dois chercher du moins les points de repère du moins de ma vie. Merci.
Merci beaucoup, Pasteur Richard. Je crois aussi que, à la suite de ce que le pasteur vient de dire, que nous devons, en plus de faire attention aux éléments autour de nous, parce que s'il est vrai que Dieu gère les temps et les circonstances, il est important que moi, celui que Dieu peut utiliser dans n'importe quelle situation, il faut que je fasse attention aux éléments autour de moi. Le Seigneur Jésus a dû utiliser tout ce qui était autour de lui à partir même de l'appel qu'il a fait pour les disciples dont il avait besoin pour pouvoir l'accompagner, ceux qu'il a nommés après des apôtres. On peut même aussi voir qu'un jour, devant une grande foule, il a dû demander à ses disciples ce qu'il fallait faire, alors que lui-même, il savait ce qui allait se passer. Il s'est servi même des petits éléments, des petits moyens. Nous nous souvenons encore de 5 pains et 2 poissons qu'il a utilisés pour nourrir les 5 000 hommes. Qu'on fasse évidemment attention aux éléments qui nous entourent, parce que le Seigneur peut se servir de ces choses-là. Mais aussi, le Seigneur va se servir aussi de notre expérience, ce que nous avons connu, ce que nous avons réalisé. Parce que à partir du verset 4, Jacob va, en fait, plus loin, il va utiliser cette expérience-là, au verset 7, mais à partir du verset 4, avant de pouvoir entrer en action, il va, nouer des relations, nouer une conversation avec les personnes qu'il ne connaissait pas, mais il va les aborder, il va leur parler. Et on va voir que c'est un geste, un premier geste qui a été bénéfique pour la suite. Je donne d'abord la parole à Papa Célio, à Maman Christine.
Oui, merci encore pour la parole, Papa José. C'est effectivement la suite qui m'intéresse beaucoup, du verset 4 au verset 7. Rappelons-nous que Jacob était aussi un berger. Il a la facilité de s'introduire parmi les bergers. Donc, ensuite, au verset 10, il va même commencer à leur donner de l'essence. Non, verset 7. Il va commencer à leur donner de l'essence en leur disant, voici qu'il fait encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez-les, les petits bétails, puis allez, faites les pêtes. Donc là, il va donner même la leçon aux bergers qui sont en face de lui, parce que c'est le travail qu'il connaît et qui faisait. La première leçon que je tire, c'est que partout où Dieu nous a fait passer, l'expérience que nous avons connue, ce n'est pas pour rien. C'est pour son travail. Quand je regarde mon tableau, je vois vraiment beaucoup de créatifs parmi nous. Il y a des scientifiques, il y a des arpenteurs, des ingénieurs, des gens qui manipulent l'argent, toutes sortes de connaissances. Et la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi toutes ces connaissances? Si les connaissances ne sont pas à faire avancer le travail de Dieu, nous n'avons pas encore perçu pourquoi Dieu nous a fait passer par toutes sortes de connaissances. Et Jacob va utiliser ses connaissances pour réellement progresser dans la volonté de Dieu et découvrir, il se sent à l'aise dans son milieu. Ensuite, il va découvrir la suite, nous allons le voir, son oncle et sa cousine, toujours par qui sont dans le même métier. Donc, pensons à ce que, ça c'est un démon sacarien qui disait, quand vous êtes médecin, ayez le langage du médecin, comment vous pouvez parler au médecin? Si vous êtes enseignant, ayez le langage d'enseignant, comment vous pouvez parler du Seigneur aux enseignants? Profitons de chaque expérience que nous avons pour le seul but, faire avancer le royaume des cieux. Amen.
Amen. Amen. Nous avons même des exemples bibliques. Nous savons ce qui avait rapproché davantage Paul à Priscille et Aquilas et le métier de faiseur de tentes, qui a aussi fait en sorte que non seulement il pouvait le groupe ensemble servir le Seigneur, mais il fait aussi une même profession. Nous pouvons en citer encore d'autres comme parmi les apôtres, les pêcheurs qui pouvaient chercher du poisson pour les autres aussi, etc. Donc, notre expérience, ce que vous avez, ce que vous connaissez là aujourd'hui, c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné. Vous vous souvenez, dans les méditations qui ont précédé, le Seigneur nous donne toutes choses pour deux raisons essentielles. D'abord, c'est pour notre subsistance, c'est vrai, mais aussi le Seigneur nous a fait voir que ce qu'il nous donne comme activité, c'est aussi une réponse aux besoins du ministère. Et nous devons nous en servir, en tout cas, pour faire avancer le royaume des cieux. Pasteur José, vous avez la parole.
Oui, au verset 8, je vois la réponse ou la réaction de berger à l'intervention de Jacob. Jacob qui leur disait de faire boire les bêtes et de repartir au pâturage. Mais eux, au verset 8, ils disent « Nous ne pouvons pas le faire avant que tous les troupeaux soient rassemblés. » Il y avait quelque chose que Jacob ignorait. Il ignorait aussi un autre troupeau. Et c'est bien le troupeau de son oncle. Oui. Alors, j'ai aimé la réaction de ces bergers. Ils n'ont pas réagi brutalement à cet étranger. À cet étranger qui s'est introduit dans leur petite communauté. Oui. Donc, ils ont gentiment réagi que non, nous ne pouvons pas faire boire nos bêtes avant parce que il y a encore un autre troupeau qui va arriver et ensemble, nous allons les abreuver. Donc, une bonne manière de répondre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que jusque-là, on ne connaît pas qui est ce monsieur qui s'adresse à eux. Oui, et ce monsieur, comme l'a remarqué mon prédécesseur, c'était monsieur qui s'y connaît, parce que la remarque qu'il a donnée, elle était juste. Seulement, il ne savait pas qu'un autre troupeau est en route. Alors, ce que je veux dire, c'est que les relations humaines sont très importantes, et nous devons avoir de la courtoisie, de la politesse pour répondre à celui qui s'adresse à nous. Comme ça, on peut vivre en paix au lieu de réagir. Ah, toi, tu viens d'où? Tu donnes des leçons, tout ça. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont agi gentiment aussi, comme lui. Lui, il était bien disposé. Donc, soyons simples, soyons humbles, ouverts à tout le monde, soyons gentils dans la société, là où nous sommes, dans le FIMES, dans la maison, et ainsi de suite. Merci beaucoup, bien-aimé.
Merci, pasteur. Vous avez aussi laissé parler le pasteur Salomon.
Dans ce texte, c'est Rachel qui est le verset que Rachel, voici Rachel, qui vient avec des petits bétails. J'ai beaucoup remarqué, ce qui m'intéresse, c'est le service. Et il y a le servir, après le service, il y a toujours Dieu fait quelque chose, servir les autres. Servir. Parce que Rachel n'était pas comme ça, qu'elle faisait rien, elle était dans le service de son père. Nous avons aussi sa tante qui est Rachel, pardon, qui est Rebecca aussi. C'est dans les services aussi qu'elle a trouvé son mariage. Et voici Rachel aussi à son tour aussi, c'est avec dans les services, dans les petits bétails qu'il endurait. Donc, quand nous servons, Dieu est derrière cette affaire d'ordre, de tous les actes que nous posons. Et vous avez David aussi, c'est dans les services qu'on est allé le chercher dans la forêt. Il était en train de perdre les brebis. Et comme la Bible le dit, si tu veux être premier, il faut être serviteur des autres. C'est dans les services que Dieu élève. Vous avez Moïse aussi, qui a été élevé aussi dans les services, parce qu'il est allé aussi faire abrouter les brebis. Et c'est là où Dieu l'a appelé, derrière des brebis, que Dieu l'a appelé. C'est développons toujours ceci comme lien, servir Dieu, même si on ne reçoit rien, mais Dieu derrière cette affaire, vous pouvez aussi recevoir une grande élévation. Et cette fille va trouver aussi le commencement des débuts de son mariage dans les services. Si nous servons les autres, Dieu prendra soin de nous. Merci.
Merci. Donc, on peut dire que c'était d'abord des gestes ou des services, que ce soit pour Moïse, que ce soit pour Rebecca, ou même dans ce cas ici, ce n'était pas intéressé d'abord, c'est juste un service que l'on rend. Et le Seigneur se sert évidemment de tout cela pour aboutir à des alliances beaucoup plus intéressantes encore comme le mariage. Merci beaucoup, Pasteur Salomon. Papa Salé, la main restée levée, est-ce que Maman Christine veut parler?
Bien sûr que oui, papa, je voudrais parler.
Oui, vous avez la parole, maman.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, tout à l'heure, nous avons entendu notre bien-aimé pasteur José des États-Unis nous parler du verset 8. Moi, je suis au verset 4. Jacob, directement, en adressant aux bergers, il les appelle « Mes frères, d'où êtes-vous ?» Voilà, quand vous êtes un nouveau venu, mais vous avez un bon langage, nous avons appris dernièrement comment est-ce que Dieu nous montrait quelle façon de s'asseoir quand on mange avec le roi, comment se mettre quand on est invité quelque part, pour dire que notre bonne foi, notre foi plutôt, doit être accompagnée de bonnes manières. Quand il approche le berger, il se, directement le mot qu'il utilise, mais disons qu'il se met comme une famille avec des bergers. Comment les bergers ne vont pas lui bien répondre au verset 8? Parce qu'il voit comment il les considère. Quand vous appelez quelqu'un mon frère, ma soeur, à moins que vous soyez un hypocrite, mais vous sentez déjà la famille là, dedans, pour dire que bien-aimé, souvent nous cherchons qu'on nous respecte. Mais comment est-ce que nous abordons les autres? Comment est-ce que nous considérons les autres? Ici, en les appelant berger, il s'est mis comme l'herbe, c'est ses propres frères. Donc moi, c'est comme une interpellation. Chaque fois que je suis en face de quelqu'un, que ce soit ma femme, mon mari, qui que ce soit, mais je dois les... Ça, c'est une considération. Il faut considérer tout un chacun. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Maman Christine. C'est très juste, surtout dans la mesure où nous sommes, comme Paul le dit aux Corinthiens, nous sommes des représentants du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que nous le connaissons et qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, nous le représentons. Et nous ne pouvons pas être de bons représentants si, à notre foi, nous n'ajoutons pas aussi les ingrédients du savoir-vivre en société, les éléments qui sont utiles, qui sont importants et qui n'entravent pas notre conviction chrétienne. Ces éléments, nous pouvons les absorber et vivre avec, de manière à ce que nous soyons des personnes qui abordent les autres avec facilité, mais aussi avec une certaine manière d'être, de faire, une certaine manière de parler, une manière de présenter les choses qui soit celle qui nous facilite évidemment l'entrée en matière pour que plus tard, lorsque nous voulons présenter le Seigneur, l'écoute de l'auditoire soit beaucoup plus aisée. C'est pour cela, on peut même aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de ces choses qui ont disparu de nos écoles. Le savoir-vivre, ce sont des choses qu'on pouvait enseigner dans d'autres pays. On est en train de les remettre encore à l'ordre du jour. Par exemple, les services civiques, hein, savoir respecter l'autorité, savoir dire vous à quelqu'un plutôt que juste le rudoyer. Tout ça, ce sont des éléments qui peuvent faciliter l'approche avec le monde qui nous environne. Merci, Maman Christine. Pasteur Richard, vous avez la parole.
Merci, Papa. Pasteur, encore pour la parole. Le verset 8, je voulais aussi partager un autre aspect. N'oublions pas que Jacob, ici, était un tricheur égoïste, il pensait à lui-même. Et nous voyons sa nature apparaître ici. Mais dans le chemin où le Seigneur nous fait passer, il nous expose afin que nous puissions apprendre d'autres personnes. Lui qui était égoïste, il voulait dire, donc c'est très facile d'entendre lui de dire à ceux-là qui étaient déjà devant les prix, pourquoi pas servez-vous? Mais ici, le Seigneur permet que les autres puissent lui apprendre que la vie ne dépend pas de toi-même, il faut penser aux autres. Et ici, on voit que le texte nous dit, non, nous voulons attendre les autres arriver avant que nous puissions ouvrir le puits. Donc, dans le chemin, donc je dois être attentif à des nouvelles leçons parce que le Seigneur ne va pas m'utiliser avec mon égoïsme. Le Seigneur va m'utiliser avec des leçons que je vais apprendre. Nous verrons plus tard que son égoïsme va aller un peu plus loin, mais jusqu'à ce qu'un jour il va apprendre du moins une leçon. Donc la leçon a commencé ici où le Seigneur voulait lui faire voir que il ne faut pas être que tout ne tourne pas autour de toi. Il faut avoir l'œil à d'autres personnes aussi. Merci.
Merci, mon frère. Dans la suite du texte, nous voyons, je reviens aussi sur le verset 10 et 11. Lorsque Jacob, aussitôt qu'il a vu Rachel arriver avec le troupeau, il va s'approcher, il va rouler la pierre de dessus l'ouverture du puits, et puis ensuite il va faire abreuver le troupeau de son oncle. C'est un geste comme celui-ci, c'est un geste significatif. En ce moment, il ne sait pas encore. Mais bien plus tard, il va s'avérer que le troupeau de son oncle va se multiplier par ses soins. On dirait que là, il a posé un premier geste. Il va abreuver le troupeau, il va aider le troupeau. Il est tout petit en ce moment ici, mais pendant les années qu'il va travailler, plus de 20 ans, ce troupeau va se multiplier beaucoup. C'est un geste assez simple aujourd'hui que le Seigneur me dit, me montre que je fasse aussi attention. Il y a certaines choses dans certaines rencontres qui peuvent déboucher plus tard sur des réalités beaucoup plus importantes encore, mais que je me tienne toujours prêt pour être utilisé par le Seigneur dans la suite, et qu'on ne méprise pas le faible commencement. Ce ministère, au FUMES, l'a commencé lentement, petit à petit, et pour moi, c'est un prélude à quelque chose de beaucoup plus important encore que le Seigneur va va accomplir et réaliser pour sa propre gloire. Le verset 11, une fois que le troupeau est abreuvé, Jacob va, au fait, se révéler alors à sa cousine Rachel, et il va élever la voix et pleurer. On peut se poser la question, pourquoi il pleure? Dieu lui a fait faire un long voyage. Le pasteur José nous a parlé tout à l'heure, dans le verset 2, en montrant par un mot comment cela implique que le voyage pouvait être vraiment long. Et Jacob, j'ai l'impression qu'ici, il s'est réjoui que oui, le voyage aboutit. J'ai là un ancrage, quelque chose qui me montre que oui, Dieu a conduit mes pas, et il s'en réjouit, d'où les pleurs qu'il va verser ici. Pour moi, c'est des pleurs de reconnaissance à Dieu que oui, tu as vraiment conduit chacun de mes pas. Papa Thomas, vous avez la parole.
Oui, je suis au verset 9. Je constate que Rachel est occupée à faire son travail ordinaire de bergère. Elle fait le travail de bergerie pour son père. Quand il rencontre la bénédiction du mari qui va l'épouser, du neveu de son père, qui va être une bénédiction pour le travail là justement de bergerie. Mais ça commence par le fait qu'elle était à sa tâche. Et Rebecca, la mère de Jacob, était aussi en train de partir prendre l'eau pour sa famille lorsque elle va rencontrer le monsieur qui est venu l'épouser pour son mari, futur mari Isaac. Je constate que Dieu a l'habitude de promouvoir des gens à partir de la fidélité de leur travail ordinaire.
Amen.
Auquel ils sont appelés. Donc, je pense que ça va être important que quand on nous confie une tâche dans l'Église, dans le FIMES, dans tout ce qu'on nous demande de faire, notre fidélité dans ces petites choses-là, c'est ça qui va conduire à la bénédiction, à l'intervention de Dieu au point suivant. Mais souvent, nous attendons à des grandes choses, mais nous ne voulons pas être fidèles à la petite tâche d'essai. Parce que c'est un test, on dirait que quand Dieu, nous sommes fidèles à ces petites choses-là, aux choses ordinaires, c'est comme ça que nous allons graduellement arriver à des choses que Dieu a préparées pour nous. Merci.
Merci, frère, c'est très bien dit. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, c'est alors qu'il nous confiera les grandes. C'est vraiment très bien. Merci beaucoup, frère. J'ai cru voir la mère du pasteur Salomon.
Oui, merci, frère. Tous les troupeaux se ressemblaient là. Cet élément qui sont ok, presque le langage biblique, il y a les montpuits, il y a les bergers, il y a les brebis. Et tout, quand on est berger, on doit savoir aussi que les brebis doivent, on doit les amener vers le puits où ils doivent boire. Et l'image des troupeaux, c'est cette image que la Bible nous demande, nous sommes des brebis. Et les brebis demeurent toujours ensemble. Et vraiment, ici, ça donne l'image de l'unité dans l'Église. L'unité dans nos milieux, l'unité dans partout où nous sommes. Et Dieu peut nous aider à tailler et à soigner des relations et créer l'ambiance de l'amour fraternel et l'unité. Parce que nous sommes brebis. Et nous avons les brebis, ils ont besoin d'un puits, ils ont besoin de l'eau. Et voyez, comme nous sommes autour de là, c'est là notre puits, c'est la Bible.
Et notre eau, c'est la parole de Dieu que nous avons en train de boire tous ensemble. C'est cet amour-là que Dieu demande. Que nous ne brisons pas nos relations et que notre Dieu puisse nous aider à être toujours ensemble. Et les brebis, là, on dit, et pardon, les bergers, on dit, d'autres troupeaux n'est pas là. Il faut que tout ce soit ensemble et puis on va ouvrir le puits et puis on va faire boire les brebis ensemble. Alors ça, c'est aussi la compassion de penser aux autres, comme le pasteur Richard a dit, de voir les autres, prier pour les autres, soutenir les autres, parce que nous sommes beaucoup du Seigneur. Merci, frère.
Merci beaucoup, pasteur Salomon. Frères et sœurs, nous sommes en train d'atterrir. Je vais donner la parole à Papa Célé, au maman Christine. Ça va être la dernière intervention pour ce soir.
Merci beaucoup, pasteur José du Canada, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire deux petites choses sur la vie de Rachel. C'est une bonne attitude, comme le commentait notre bien-aimé Thomas, d'attendre les bénédictions, mais pas en croisant la main, mais tout en travaillant, et Dieu va amener sûrement les bénédictions comme il a fait avec Rachel qui était surpris ce jour-là. La pierre sera roulée par un parenté, c'est ce qu'il n'attendait pas. Un peu plus tard, on verra, ça sera son mari. Et verset 11, Jacob baisa Rachel et il leva la voix et pleura. Souvent, on pense que pleurer, c'est l'attitude de faiblesse. Non. C'est une bonne façon d'exprimer aussi les sentiments, que ce soit dans la joie. On peut pleurer le pleur de joie, le pleur de tristesse, on peut pleurer d'implorer des supplications. Donc, on ne peut pas vivre comme des robots et cachant les sentiments. Ici, moi, je suis vraiment d'accord. De la façon dont il exprime ses sentiments en pleurant. Le modérateur l'a si bien dit, est-ce que c'était la joie de dire, mais finalement, Seigneur, tu as accompli. Vous savez aussi, bien aimé, qu'en venant ici avec la maman avait dit, si Isaïe a déjà eu la femme de ce côté, si Jacob aussi prend une femme d'ici, ça ne sera pas. Mais est-ce que c'était, il pressentait déjà la l'arrivée de Rachel, la joie que déjà ce que les parents voulaient va s'accomplir ou quoi, ou tellement ils voyaient que le voyage réussit l'intervention de Dieu. Donc nous sommes appelés à exprimer nos sentiments, c'est naturel et c'est bon. Même Jésus aussi a exprimé ses sentiments le long de son ministère. Amen.
Amen. Merci beaucoup, maman Christine. C'est tellement des choses qui nous vont droit au cœur, frères et sœurs. Ce soir, nous avons beaucoup appris. Au travers de la vie de Jacob, dans juste ce court épisode, nous apprenons que Dieu demeure toujours fidèle. Nous apprenons sur lui que c'est un Dieu qui dirige les événements. Il les conduit. Et nos pas sur le chemin de la vie sont un à un comptés par le Seigneur. Et si nous nous laissons diriger par lui, il va nous conduire au bon port, comme il l'a fait pour Jacob ici. Il l'a fait arriver à ce moment-là en plein jour, comme le pasteur José nous l'a dit. Il aurait pu aussi passer à côté ou utiliser un autre chemin, mais le Seigneur l'a conduit au bon endroit. Comme pour nous dire, nous pouvons nous aussi espérer que le Dieu de Jacob, il est toujours vivant. Jacob l'a servi en son temps et il n'est plus aujourd'hui. Mais le Dieu qui l'a servi est toujours vivant. Ce Dieu-là nous conduira aussi. Il gère les événements, il intervient dans nos vies, peut-être par des moyens que nous ne pensons peut-être pas, mais que nous fassions attention. Nous avons vu que les expériences par lesquelles le Seigneur nous fait passer, les études que nous avons faites, l'expérience de travail, notre présence ici en Occident, en Amérique du Nord, ce n'est pas toujours les hasards, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes venus pour diverses raisons. peut-être pour vous, oui, mais le Seigneur a dirigé ces choses-là pour qu'aujourd'hui tu sois où tu es, parce qu'il a un but, il a une mission, il a quelque chose qu'il veut nous voir accomplir. Et c'est pour cela que nous ne devons pas perdre de vue cette réalité, que nous apprenions à regarder la vie, même si derrière nous, nous avons laissé des familles troublées, nous avons peut-être des choses qui sont lourdes à porter. Mais maintenant, le Seigneur nous veut à son service, il nous veut que nous marchions avec lui. Pourrions-nous nous relever, nous secouer un peu, nous débarrasser de la poussière et ne pas regarder en arrière et nous tourner vers l'avant où le Seigneur a encore quelque chose à nous apprendre. Donc nous avons vu, c'est vrai qu'on n'a pas commenté sa rencontre avec la rencontre de Jacob avec son oncle, mais son oncle va reconnaître que oui, Jacob est véritablement l'os de ses os et aussi la chair de sa chair. Et c'est comme ça que il va reconnaître cette vérité au verset 14, comme pour dire, tu es vraiment quelqu'un qui vient de moi, qui vient de ma sœur, parce que tu es mon neveu. Et maintenant, l'école du Seigneur peut commencer, l'école est ouverte, et Jacob va encore apprendre des choses. Dans la vie à laquelle le Seigneur nous a appelés, nous avons encore des choses à apprendre. Je suis personnellement émerveillé chaque soir d'apprendre des frères et sœurs, de savoir comment, qu'est-ce que le Seigneur fait dans leur vie. Et le Seigneur continue de nous apprendre encore. Et comme nous l'avons vu au verset 4, nous sommes tous frères et sœurs et nous formons maintenant une communauté qui a besoin de s'affermir, de grandir, de se raffermir même, afin que le Seigneur nous abreuve ensemble, fasse encore en sorte que d'autres qui ne sont pas encore là nous rejoignent pour qu'ensemble nous servions les intérêts de son royaume. Voilà pour ce soir, frères et sœurs. Demain, nous allons continuer dans le même chapitre 29 de Genèse. Nous irons du verset 14b au verset 35 avec les questions 1 et 3. Voilà pour ce soir, frères et sœurs. Papa Séné, avons-nous des annonces?
Papa José, pour la parole, la première chose, c'est de saluer les frères et sœurs qui méditent avec nous à la radio FIMES. Ils sont à Massachusetts, Missouri, là c'est du côté des États-Unis. Au Canada, ils sont au Québec, ils sont en Alberta. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous allons démarrer un partenariat avec un ministère qui s'appelle enseigne-moi.com, ce qui fait que la méditation de ce soir sera postée sur enseigne-moi.com et elle aura une très large diffusion et beaucoup de gens à travers le monde la suivra pour dire que nous devons apprendre de ce que les autres font comme Jacob nous a montré ce soir. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Pourrais-je demander à Papa Thomas de faire la prière finale, s'il vous plaît?
Tendre Père, merci pour la méditation de la parole aujourd'hui. Nous voyons, Seigneur, Jacob, l'ancien dribbleur, l'ancien margoulin, il a volé la bénédiction de son frère. Il a menti à son père que c'était lui et Saul. Il a pris la bénédiction. Il est poursuivi, il fuit, il a peur, il s'est rusé. Mais il t'a rencontré, Seigneur, et tu as transformé son cœur. Et là, il arrive à parents. Et là, il tombe justement, Seigneur, sur des bergers, des gens qui connaissent son oncle. Et même sa cousine, Rachel, va arriver sur place. Et il voit maintenant qu'effectivement tu es avec lui, tu le fais arriver là où il doit arriver. Tendre Père, si tu peux le faire à cet homme-là, tu peux le faire à nous tous quand nous nous repentons, quand nous venons à toi, quand nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pardonne-nous tous, Seigneur. Pardonne-nous et qualifie-nous. Garde-nous du mal, Seigneur. Aide-nous d'être fidèles. Et nous voyons que les bergers, ils s'attendent l'un et l'autre. Ils travaillent ensemble. Ils veulent ouvrir, Seigneur, la bouche du puits pour que tout le monde ait à nourrir ses brebis. Tendre Père, donne-nous l'amour dans la foi chrétienne, dans la famille chrétienne, de nous demander les uns les autres, de connaître les biens, les besoins des autres et y pouvoir. Donne-nous la préoccupation des besoins des autres et donne-nous d'intervenir comme Jacob est intervenu. Il n'a pas seulement dit, on voyait mon nom, donc c'est là-bas, il parle et la pauvre doit ouvrir et les autres, les lèvres, mais il parle, non. Il a utilisé sa force pour mouvoir la pierre, pour que les gens puissent nous vivre. Donne-nous de participer à ce travail, Seigneur. Donne-nous à être actifs. Donne-nous à être sensibles aux besoins, Seigneur, au Dieu de ton service. Comme nous entendons enseigner d'Akram, ça coûte de l'argent. Et nous devons garder, Seigneur Dieu, les sites Internet et nous devons payer pour la radio. Donne, Seigneur Dieu, à nous tous les membres la sensibilité, les moyens, la volonté de mettre nos moyens, de mettre l'argent, de mettre notre cœur à te servir. Donne-nous la fidélité, Seigneur Dieu, de faire ce qu'on nous demande de faire. Donne-nous ce cœur, Seigneur, qui t'exprime la gratitude en criant, en pleurant devant toi, Seigneur. Rends-nous sensibles au bien que tu nous fais. Seigneur Dieu, ne nous laisse pas oublier tes bienfaits, mais que nous nous rappelions que c'est toi qui pardonnes nos péchés. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous guérit des maladies. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous sort des troubles. C'est toi, Seigneur, qui nous couronne d'amour et de grâce et de miséricorde. Mais c'est toi aussi, Seigneur Dieu, qui nous fait du bien. C'est toi, Seigneur Dieu des armées, qui renouvelle notre force et nous fait justice quand nous sommes opprimés. Tendre Père, bénis-nous. Tendre Père, qualifie-nous. Nous voulons comme des vrais soldats, Seigneur, comme des fermiers, comme des athlètes, Seigneur, courir dans cette course que nous sommes, Seigneur, en gardant nos regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, bénis-nous. Et que ces vérités que nous trouvons chaque jour, Seigneur, qu'elles restent dans nos vies, que les gens vérifient que réellement nous sommes transformés par elles. Et dit le docteur Mbala, Seigneur, avec les fidèles chaque lundi et les autres jours à venir participer et à se mettre à ton œuvre, Seigneur Dieu, visite-le dans sa fidélité, Seigneur, de tous les jours, dans l'église, dans le fumet et à son travail, Seigneur, visite-le. Et accorde dans sa vie tout ce qui lui manque. Complète-le, encourage-le. Tendre Père, bénis chacun de nous, ceux qui viennent. Souviens-toi de tes serviteurs et des besoins des gens, Seigneur Dieu, dans notre groupe, Seigneur. Ouvre des portes, Seigneur. Fais arriver, Seigneur, au Dieu des gens à leur destinée, comme le pasteur Salomon. Fais-les arriver à sa destinée. Seigneur Dieu des armées, comme d'autres serviteurs qui sont en train de se chercher et d'être fidèles, Seigneur, dans leur séjour, Seigneur Dieu, ici-bas, sur terre. Tendre Père, comme Jacob, fais arriver, Seigneur, tes serviteurs qui cherchent, qui poursuivent et qui désirent, Seigneur, que te servir davantage. Ouvre des portes que seul toi peux ouvrir. Seigneur Dieu, fais arriver aux gens au travail, fais arriver aux gens au mariage, Fais arriver nous tous, Seigneur Dieu des armées, à la bénédiction, à l'épanouissement. Fais arriver, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, à la destinée. Fais arriver chacun de nous, Seigneur, à la grandeur, à la grâce, Seigneur Dieu. Aux choses que nous aspirons pour te servir mieux, fais-nous y arriver comme tu l'as fait pour Jacob. Bénis-nous, Seigneur. Ceux qui vont nous suivre, Seigneur, dans Congo Mekinida, dans enseignemoi.com, à l'internet, à la radio, Seigneur, ceux qui participent et ceux qui viennent à la radio, tendre Père, tout le monde qui va nous suivre, tout le monde qui a participé, tendre Père, que chacun de nous sorte de cette étude bénie. Que chacun de nous ait été rencontré et que nos vies changent conséquemment pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Merci, Papa Thomas, pour la prière. Bonne soirée à tout le monde et à demain, par la grâce de Dieu.